Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, la fille de Jean Delay, la Jeanne de Robert Bresson.
Bonsoir Florence Delay.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir dans votre appartement. Nous sommes boulevard Saint-Michel à Paris. Florence Delay, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, traductrice, mais également comédienne, scénariste. Vous êtes née à Paris le 19 mars 1941. Vous avez été enseignante à la Sorbonne en littérature générale et comparée, et vous êtes l'auteur de nombreux romans, de Minuit sur les Jeux, votre premier, à Trois désobéissances, le dernier en date. Agrégée d'espagnol, vous avez traduit quelques-uns des grands auteurs de ce pays. Passionnée de théâtre, de poésie et de chevalerie, on vous doit, à vous et à votre complice Jacques Roubaud, Graal Théâtre, cette imposante fresque théâtrale qui revisite la légende du roi Arthur. Florence Delay, ce soir, nous tenterons de conjurer la chronologie, que vous n'aimez guère, et à laquelle vous préférez l'idée de progression par cercle. Nous commencerons néanmoins par votre enfance et votre adolescence, période durant laquelle vous avez longtemps été, aux regards extérieurs, la fille de votre père, le professeur Jean Delay, puis la Jeanne de Robert Bresson, qui vous fit connaître du public pour la première fois. Et puisque nous commençons par les cercles, donc, commençons par le nom Delay, celui de votre père, titulaire de la chaire de clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Sainte-Anne, mais également écrivain et auteur, entre autres d'une biographie d'André Gide. Être la fille du professeur Jean Delay, c'était déjà à partir à un milieu reconnu.
L'appartenance à une famille est évidemment capitale, mais si vous voulez, elle est toujours conjurée. Elle a été, enfin, je la revendique, je l'aime, j'ai aimé mes parents, je leur dois beaucoup. Mais ce qui est très beau, c'est que on peut conjurer l'appartenance par le lycée. Et j'ai vécu les années de lycée, en fait, comme vivant dans une parfaite égalité avec tout le monde. C'était l'époque bénie où on avait un tablier. Et c'était un lycée de filles, lycée de La Fontaine, et nous avions cet uniforme du tablier qui faisait que l'appartenance, les robes, la différence ne se voyait pas. Nous avions le nom et la classe pour dire le tablier. C'est à la sortie du lycée, que prenant mes marques dans le monde, enfin, je me suis rendu compte que j'étais la fille de mon père et très vite la Jeanne de Bresson. Et alors, en même temps, j'en étais fière et un peu agacée. Et le temps passant, j'en étais de plus en plus contente. Parce qu'au fond, je crois que mon père ainsi que ma mère m'ont beaucoup donné, et Bresson aussi. Et puis j'aime aimer d'une certaine façon. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais tourné le dos à tant de ce que j'appelle des bienfaits, finalement. Alors, mon père exercer un métier qui m'a fait très peur toute petite.
Il était donc psychiatre.
Voilà. Il était psychiatre. Il était psychiatre et il avait été dans sa jeunesse tout à fait partagé entre la vocation de poète et d'écrivain qu'il aimait par-dessus tout la littérature. Et puis son père il était fils unique, l'a guidé vers la médecine et la chirurgie qui lui a fait très peur. Et la découverte de la psychiatrie et des maladies mentales a été pour lui comme étrangement une délivrance, parce qu'il voyait le moyen de retrouver par la psychiatrie des grands problèmes de l'âme et de l'esprit. Et donc j'ai vécu une enfance auprès d'un père divisé qui essayait toujours de réunir. Et c'est pour ça que sur son épée, il avait pris comme symbole le dieu Janus. Vous savez, ce dieu qui a deux visages, dont l'un regarde d'un côté, l'autre de l'autre. Il a toujours voulu réunir ces deux visages dans cette vie double, mais une, de psychiatre et d'écrivain. Et vous évoquiez son livre sur Gide. C'est en fait très exactement un livre sur la jeunesse d'André Gide, où il a créé un genre qui s'appelle la psychobiographie, qui ensuite a été suivi par Dominique Fernandez et par d'autres, et où il explique finalement la genèse d'un artiste par sa jeunesse. Et il déplie devant nous la tapisserie, tous les fils, il entrecroise tous les fils qui feront de Gide l'homme qu'il fut.
Arrêtons-nous un instant sur vos racines. Vous êtes née à Paris en 1941, donc vous êtes née parisienne, mais vos racines sont d'ailleurs basques et du Nord également.
Je ne crois pas tellement aux racines, parce que je crois qu'on peut choisir, on peut les choisir aussi. Reste que les paysages de mon enfance, c'est le Pays basque. Voilà, j'aime Paris. Mais je suis très émue par les paysages du Pays basque. Mais ensuite, comme je l'ai été d'ailleurs après, par les paysages de la Toscane, ou ensuite les paysages de l'Espagne. Moi, mon rêve aurait été d'avoir plusieurs pays et plusieurs langues.
Vous naissez en 1941, Paris est occupé, c'est la guerre. Quelles sont les conditions de vie de vos premières années, de votre petite enfance? Avez-vous souffert du manque? Est-ce que la guerre a laissé des traces dans la famille?
Aucune. Parce que d'abord, je ne me souviens de rien. Et ensuite, je crois avoir passé mon enfance auprès d'une nourrice pleine de lait. Et au Pays basque, finalement, ou souvent chez mes grands-parents qui habitaient Bayonne, et je n'ai pas souffert du tout, j'étais toute petite, et je n'ai qu'un souvenir troublant de peur, qui est une descente à la cave par l'escalier de service. Vous savez, c'était ces immeubles haussmanniens où il y avait l'escalier principal et puis l'escalier de service. Et une nuit, j'ai le souvenir de descendre à la cave.
Précipitamment ?
Et oui, précipitamment. Il devait y avoir une alerte. Et depuis, les escaliers de service me font peur. Et j'ai eu bien raison, parce que quelqu'un que j'aimais tendrement, quelqu'un qui avait joué Gauvin dans un film de Bresson, Humbert Balzan, producteur indépendant, s'est suicidé dans un escalier de service. Et donc il est resté lié à cela quelque chose d'angoissant et de menaçant.
On a évoqué André Gide. André Gide a côtoyé votre famille. Il était parfois l'hôte de la maison de vacances de Bayonne. Comment André Gide est-il entré dans votre famille, Florence Delay?
Mon père était allé à Bruxelles en 46. Faire une conférence, sans doute, accompagné de ma mère. Et il dînait avec le professeur Henri Mondor. Henri Mondor, si vous voulez, est à Mallarmé ce que mon père a été à Gide. Il dînait à l'hôtel et à une table, il y avait André Gide qui dînait seul avec un livre. Et Henri Mondor a fait les présentations. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Gide lisait avec fascination un bouquin de Bernanos, Monsieur Wynne, dont on disait qu'il avait été l'inspirateur. Monsieur Wynne est un maître en déception. Monsieur Wynne est là pour démoraliser le pays où il vit. Et d'où son nom, Wynne, ni oui ni non. Et Gide, paraît-il, se délectait de sa lecture. C'est un des plus beaux romans, d'ailleurs, de Bananos. Donc, ils se sont rencontrés là, ils se sont aimés tout de suite. Et mon père est devenu son ami. Et aussi un peu son médecin. Jusqu'au moment où il a été invité dans la maison de mes parents dans les Landes, à Miradour. Et je me souviens que il avait des petits objets fabuleux dont il me faisait cadeau, des petits Pinocchio qui se démantibulaient. Et j'allais tous les matins avec bonheur dans sa chambre jusqu'au moment où ma mère m'a dit qu'il valait mieux ne pas aller troubler M. J dans sa chambre le matin. Mais je l'ai donc un peu connu, et là j'étais enfant.
Est-ce qu'il y a une influence sur l'écrivaine en devenir, l'écrivain en devenir que vous étiez? Est-ce qu'il y a aussi un goût de la lecture qu'il vous a transmis ou pas du tout?
Non, j'étais trop enfant. Reste qu'il y a une phrase de Gide qui a beaucoup compté pour moi. Il disait que lorsqu'il avait achevé un livre, il bondissait à l'autre extrémité de lui-même. Et cette idée du bond et de changer, de bifurquer, de changer de chemin, d'aller à l'autre extrême, m'a beaucoup marquée.
Revenons au lycée. Florence Delay, vous nous sous-entendiez un certain bonheur d'aller au lycée, un certain bonheur de retrouver l'uniforme. Comment s'est déroulé votre parcours scolaire? Est-ce que vous aimiez l'école, tout simplement?
Je l'ai aimé passionnément. Voilà, donc en fait, au début, dans les petites classes, je suis au couvent de l'Assomption, où je ne pense qu'à comptabiliser les sacrifices de mes disciples. Je suis d'une grande paresse. Et on me met au lycée. Donc, drame.
Lycée public.
Lycée public en 6e.
Lycée La Fontaine.
Lycée Jean de La Fontaine. Et au bout de quelques jours, je suis dans un état de bonheur. J'aime mon lycée. Et je fais partie de ceux, je crois qu'il y a deux grandes familles, ceux qui ont été très heureuses. Et je mets tout au féminin parce que c'était encore un lycée de filles. Et puis ceux qui ont été malheureux. Mais moi, j'ai aimé passionnément le lycée. Toutes mes amies de lycée sont restées mes amies. J'ai connu Liliane en 6e, Nadine en 5e, Natacha en 4e. Elles sont restées toutes proches. Le lycée, non seulement nous donnait tout extrêmement vite, l'idée de passer de l'histoire à la géographie, en une heure, on passait du cours de la loi à une équation, etc. C'était une merveille. Chaque journée, c'était le monde entier. Et puis, c'était un lycée dont nos professeurs étaient passionnants. On y faisait de la danse. J'y montais chaque année une pièce de théâtre. C'était la belle vie. Et quand j'ai eu le bac de philo, pour aller dire au revoir à mes professeurs, je me suis mis tout en noir, comme Mathilde de la Mole. J'avais l'impression que ma vie était finie.
C'était un grand deuil.
C'était un grand deuil. Et j'ai essayé de raconter, mais de façon gaie et un peu peut-être ironique parfois, cette éducation dans mon premier livre qui s'appelle « Minuit sur les jeux ». Et j'ai été heureuse de revivre ces années avec un peu de distance et d'ironie, parce que peut-être que j'aimais trop le lycée. Mais il m'a donné ce que j'aurais jusqu'au bout, je crois. C'est le goût de l'étude. Et de ne jamais avoir l'impression qu'on s'arrête d'étudier, qu'on s'arrête de découvrir, qu'on s'arrête... Mais il y avait aussi quelque chose que j'ai gardé de lui. L'idée d'emploi du temps, de pouvoir bondir, et hop, on retrouve le bon, d'une chose à l'autre, d'un être à l'autre, d'une chose à l'autre, parce qu'il a éveillé une insatiable curiosité d'enfant d'éléphant, presque. Et alors, en réalité, j'ai très mal travaillé. On m'avait mis en sixième nouvelle. Alors la nouveauté apaisait un peu la blessure. En fait, c'était des classes pour les filles un peu retardées, quoi. On appelait ça nouveau, ce qui est génial. De dire que la nouveauté, c'est le retard. Et jusqu'au moment où j'ai redoublé ma troisième. Et après, hop, j'ai passé en tête.
Et comment expliquez-vous, Florence Delay, ce formidable goût de l'étude que vous décrivez et pourtant ce redoublement?
Ah, parce que le goût de l'étude est venu peut-être après. Je vais vous dire, je pensais d'abord à jouer, à danser, à monter des pièces, plus qu'au latin et aux mathématiques. Bon, donc je ne faisais que ce que j'aimais.
Vous aimiez le français? Les rédactions.
J'aimais le français, j'aimais l'histoire, j'aimais apprendre des récitations et réciter. Mais bon, j'étais en retard pour beaucoup de matières. Je ne comprenais rien, ni à la physique, ni à la chimie, ni à beaucoup, beaucoup de matières.
Lisiez-vous beaucoup Florence Delay en dehors du lycée?
Oui.
Des romans?
Oui. Oui, et ça, ce goût de la lecture, encore une fois, je pense qu'il vient des maisons qu'on habite, parce qu'une maison qui n'a aucun livre et des enfants qui ne voient jamais ni leur père ni leur mère lire ne prennent pas le goût de la lecture.
Vous vous souvenez de vos premiers émois en littérature?
À moi, ce qui a déclenché tout, c'est Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Parce qu'il fallait que j'aille au dictionnaire à chaque page. Parce que le vocabulaire est richissime de Gautier.
Ça ne vous rébutait pas?
Ça m'excitait. Et vous voyez, à la fin de ma vie, je me retrouve à la commission du dictionnaire de l'Académie française. Donc finalement, tout se boucle. Et puis, il y avait l'aventure du théâtre. Et qui au fond m'est venu, je crois que le goût du théâtre m'est venu avec Le Capitaine Fracasse. L'arrivée des comédiens sur le chariot de Thespis, traîné par des bœufs dans le château délabré du baron de Sigognac en Chalosse. Et ensuite, cet air espagnol qui règne sur ce roman avec des mots, avec le personnage de Matamor. D'ailleurs, Gautier, il a écrit un magnifique voyage en Espagne.
La littérature, c'était aussi une des grandes passions de votre père. Votre père était notamment fasciné par Gérard de Nerval et il avait cette phrase « Un déséquilibre peut favoriser l'activité créatrice et celle-ci instaurer un équilibre de nouveau ». D'où venait cette phrase, Florence Delay, de votre père? Et qu'est-ce qu'elle implique sur une certaine idée de la création? Une certaine idée que pour créer, il faut être un génie tourmenté, quelque part?
Vous touchez là un point délicat. Un point délicat parce que toute mon enfance s'est forgée contre cette idée-là, à savoir qu'un déséquilibre nerveux autorisait d'une certaine façon la création. Mon père a beaucoup travaillé sur le rapport entre la névrose et la création. Et évidemment, les cas sont innombrables. De Saint-Paul à Nietzsche, à Dostoïevski. Et moi, ça me faisait très peur, parce que j'avais un tempérament très gai et que je souhaitais être heureuse. Mais je voulais aussi être écrivain. Donc, l'image de Nerval m'a effrayée à cause de ses crises de folie, à cause... Et mon père l'aimait chèrement. Et je pense que la phrase que vous citez vient de très nombreux articles qu'il a écrits sur l'auteur d'Aurélia et des Filles du Feu. Et je dois à une étudiante, bien des années plus tard, une étudiante de mon séminaire qui s'appelait le modèle, la copie, l'invention, d'avoir voulu travailler sur... Nerval, et étrangement d'avoir trouvé une relation entre un livre de moi et Nerval. Et j'ai été très étonnée parce que je n'avais jamais lu un roman de lui qui s'appelle Les Faux-Sonniers. comme elle voulait beaucoup travailler sur Nerval, je me suis dit qu'il était temps de découvrir Nerval. Parce qu'au fond, je n'en avais qu'un cliché. Et j'ai commencé à lire tout Nerval avec un ravissement et une passion. Je me suis aperçue que c'était un homme bon et gai, qui avait lutté contre la maladie, qui, après chaque crise, après chaque internement à la Clinique Blanche, en ressortait avec une vaillance inouïe. Enfin, j'ai écrit donc un livre qui s'appelle « Dit Nerval », qui est un livre dans la collection de J.B. Pontalis, qui s'appelle « L'un et l'autre ». Et « L'un et l'autre », c'est finalement mon père et Nerval.
Et vous-même, Florence Delay, où avez-vous trouvé la force et l'énergie pour prouver que la création pouvait se faire autrement que dans la souffrance et qu'elle pouvait se faire dans la joie? Vous étiez convaincue de ça, très jeune. Où avez-vous...
Non, je crois que c'était une position. C'était un désir et une position. Il y avait dans ma nature de la gaieté, ça c'est sûr. Et je l'ai toujours, je la garde. Mais en même temps, c'était une affirmation. Une affirmation qui allait contre une négation. C'était un oui au bonheur de travailler, de découvrir, et un non un peu tremblant à l'anxiété, parce que on ne connaît la joie que si on connaît son contraire, n'est-ce pas? Et son contraire n'est pas la dépression. La dépression est une maladie. Le contraire de la joie est la tristesse, qui est un mot en voie de disparition. Parce que je ne sais pas si autour de vous, vous avez quelqu'un qui dit tout simplement « je suis triste ». Non, on vous dira « je suis déprimé, je ne vais pas bien ». Non, la tristesse existe. Et la tristitia, au Moyen-Âge, selon les pères de l'Église, était un péché capital.
En 1962, Florence Delay, vous incarnez Jeanne d'Arc pour Robert Bresson, pour son film « Procès de Jeanne d'Arc ». Il a fallu obtenir l'autorisation de vos parents pour jouer, incarner ce rôle. Comment votre père vous a-t-il donné son aval? Est-ce que ça a été facile?
Non. Non. Mon père appartenait profondément à la bourgeoisie éclairée, et à ses yeux, le cinéma sentait le soufre. Il avait pour ami Pierre-Aimé Touchard, qui avait été administrateur du Théâtre Français, qui déjà lui avait expliqué que le théâtre... bon. Donc le théâtre, le cinéma, tout ça n'était pas le chemin destiné à sa fille ou à ses filles. Et c'est ainsi qu'il a refusé que ma sœur tourne Julietta, le film de Marc Allégret, à partir du roman de Louise de Villemorin, et que Jeanne, eh bien, c'était quand même un beau rôle, et il a finalement dit oui. Mais vous voyez, je n'ai pas porté mon nom dans ce film. J'ai pris le nom de ma mère, il ne souhaitait pas son nom. Oui, voilà. Après, est-ce que je peux l'avouer? Quand il a vu le film, il m'a dit qu'il était très ennuyeux. Voilà. Mais passons, oublions ce jugement.
Robert Bresson était connu pour ne pas faire de casting à proprement parler. Il avait coutume de préférer aussi des interprètes non professionnels. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à lui?
Par une filière intime, qui était que je citais parmi mes amis de toujours Natacha. Il s'agit de Natacha Michel, avec qui je vais travailler beaucoup par la suite, puisque nous écrirons ensemble nos premiers romans. Et Natacha, fille du réalisateur André Michel, amie de Bresson, André Michel, avait tourné des essais pour Pickpocket, 2 ans avant Jeanne. Et c'est ainsi qu'un soir d'hiver, au TNP, je rencontre les parents de Natacha, et Lydia Michel me dit, en te regardant, elle était russe, je pense que peut-être Robert Bresson cherche une Jeanne, Natacha devrait t'amener à lui. Et Natacha m'a amenée Île Saint-Louis, où habitait Robert Bresson. De même que 3 ou 4 ans, j'y conduirais Anne Wiazemski, qui tournerait à ce moment-là au hasard Balthazar. Donc il y avait une sorte, les amis, l'entourage, connaissaient, voient un peu les visages ou les âmes avec lesquelles il avait envie de travailler.
Vous aviez le goût du jeu, vous aviez aussi le goût du théâtre, et là vous vous retrouvez au cinéma à interpréter un rôle-titre.
J'ai obéi. Il y avait en face un maître, quelqu'un qui avait tout son film dans la tête et qui demandait une certaine concentration. J'ai le sentiment d'être élève. Enfin, il disait qu'on était ses modèles, mais d'abord, je ne connaissais pas du tout Jeanne d'Arc. Je n'avais que des images d'Épinal dans la tête. Et le bonheur a été immense d'entrer par ses propres paroles. C'est-à-dire, le film de Robert Bresson, Procès de Jeanne d'Arc, est fondé sur les minutes du procès qui existe et de l'autre procès, 20 ans après, de réhabilitation que sa mère a fait pour que soit réhabilité le nom de sa fille. Et donc, les paroles sont celles qu'elle a dites. Bien sûr, reprise par Robert Bresson, parce que c'était un Français très éloigné et moyenâgeux, enfin encore un peu moyenâgeux, auquel il a donné une espèce de clarté française merveilleuse. Et donc le sentiment de dire, c'est en disant les paroles que je me suis approchée d'elle. C'était par moments terribles. Par exemple, le moment où elle abjure, ou par peur du feu, Elle accepte de dire que ses voix n'étaient pas de Dieu et qu'elle s'est trompée. Et ça, c'était un moment terrible. C'est comme si j'annulais tout ce que j'avais dit. Donc finalement, à la fin du film, c'était le bûcher. Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que... on avait tous ce sentiment-là, d'ailleurs. Cochon, Jean-Claude Fourneau, ceux qui étaient là. C'était une petite assemblée. On tournait à l'Observatoire de Meudon avec une équipe, une petite équipe. Et il régnait une atmosphère assez extraordinaire. Pas de couvent du tout, mais de monastère aéré. Et on avait tous le sentiment que le film serait un grand film.
Merci Florence Delay. À demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay.